Nous ouvrons la Bible, frères et sœurs, dans le premier livre de Samuel, qui nous raconte l'histoire de ce héros de la foi. Mais ce n'est pas un homme qui était une vedette, c'est un homme qui était douloureux. Il avait de grands combats, de grandes tristesses. Il a été confronté à des situations qui nous paraissent aujourd'hui extraordinaires, impossibles. Et Dieu l'a défendu. Mais il nous sert d'exemple pour que dans les combats que nous menons, nous sachions que Dieu est avec nous. Il y a, je vais d'abord le lire, mais vous l'écoutez seulement, un verset de l'Épître aux Hébreux qui dit « Par la foi, vous connaissez ce grand chapitre de l'Épître aux Hébreux, qui est le monument, pas le monument aux morts, le monument des héros de la foi, il y a un verset qui dit « Par la foi, certains furent vaillants à la guerre. » C'est le verset 34, Hébreux 11. « Certains furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » On n'a pas l'habitude de parler de la foi en y mêlant la guerre. Pourtant, je pense que nous sommes tous en guerre contre l'adversaire grand et redoutable, Satan. Alors on arrive à David, parce que c'est lui, David, là, qui a mis une armée étrangère en fuite. Israël est en guerre contre les Philistins, ça s'est arrivé souvent. Mais à une certaine époque, les Philistins, ils avaient avec eux un fameux champion, un géant. Un géant très fort, musclé, et qui disait avec beaucoup de vocifération, si quelqu'un arrive à me battre, alors nous nous soumettrons à Israël. Mais si moi je suis vainqueur, l'armée d'Israël devra être esclave. Et les deux armées, les Philistins, Israël, étaient face à face depuis des jours et des jours et des jours. Et tous les jours, le Goliath sortait de l'armée des Philistins et il haranguait, il criait, il vociférait devant Israël et Israël avait peur. Et puis voici que, pas par hasard, je pense qu'avec Dieu, il n'y a pas beaucoup de hasard. Voici que un papa a dit à son fils, qui était jeune, blond ou roux, ça dépend des traductions, qui s'appelle David, qui était berger. Il lui a dit, tu vas aller porter à tes frères qui sont sur le combat contre les Philistins, tu vas aller porter des fromages. Vous aimez le fromage? Il y en avait beaucoup de fromages. J'imagine que c'était peut-être pas des petits fromages, mais des gros. Et puis en arrivant dans le camp d'Israël, voici que David, il a entendu parler de ce Goliath, de ce géant. Et je vais lire avec vous. Au verset 20, chapitre 17, 1 Samuel, on ne va pas tout lire parce que c'est un peu long, mais on va quand même tout apprendre. Au verset 20. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, il était berger chez son père. Il prit sa charge de fromage et partit comme Isaïe, c'est-à-dire son père, le lui avait ordonné. Il y avait encore des pères qui donnaient des ordres à leurs enfants. Il faut que ce soit la même chose encore aujourd'hui. Hein. Lorsqu'il arriva au camp, c'est-à-dire dans le camp de l'armée, de la guerre, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. L'armée d'Israël pousse des cris impressionnants. Des cris de guerre, mais qui ne changent rien à la situation. Mon chat, quand il voit quelqu'un de plus fort que lui, il hérisse tous ses poils, il fait le gros dos, il crache, il crie, mais ça ne fait rien. Ça ne change pas grand-chose. Et devant le Goliath qui s'avance, l'armée de Dieu, l'armée du Dieu vivant, l'armée d'Israël, elle pousse des cris, mais ces cris-là ne changent rien, parce que ça ne change rien à la force de Goliath. Et quand Goliath arrive, cette armée de criards prend la fuite, ils ont peur, ils sont dans la crainte, leurs cris ne les sauvent pas. Dieu disait dans le prophète Ésaïe, « Qui es-tu ?» Il parle à son peuple, « Parle à vous, à moi. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel ? Es-tu une poule mouillée ? Ou es-tu un enfant du Dieu vivant ?» Je pense que quand on est chrétien, il y a des peurs qui doivent être chassées. Nous sommes enfants du Seigneur. Amen. Nous sommes dans la protection du Seigneur. Il y a des peurs naturelles, des craintes qu'il faut avoir, du péché, du mal. Mais dans certains cas, il faut que la foi triomphe sur la peur. Qui es-tu pour avoir peur ? Tu es un enfant de Dieu. Israël crie, mais ça ne fait pas peur aux Philistins. Vous savez combien il mesure le Philistin, le Goliath ? 3 mètres de haut. Jamais vu quelqu'un qui faisait 3 mètres. Et son casque, vous savez le poids de son casque ? Je ne pourrais même pas le prendre dans mes bras. 50 kilos. Il fallait qu'il ait une bonne tête quand même, hein, avec un cou solide et des épaules solides. C'était quelqu'un d'impressionnant. Et Israël a peur, comme vous le comprenez. Mais Israël, ce jour-là, il a oublié une promesse. Une promesse que Dieu a donnée à Moïse pour les temps difficiles de David, de nous, de nos enfants. Dieu avait dit à Moïse, « Le Seigneur, l'Éternel, te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils viendront par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. » Dispersés, c'est Deutéronome 28, verset 7. À une condition, dit le Seigneur, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Cela veut dire, si tu fais ce qui est agréable à Dieu, si tu suis le chemin de Dieu, l'ennemi s'enfuira devant toi. C'est une belle promesse que je vais serrer dans mon cœur pour cette semaine. Donc la foi n'est pas dans les cris, la foi n'est pas dans nos paroles, la foi c'est dans l'obéissance à Dieu. La foi c'est de croire avec une ferme assurance que Dieu tient promesse et que cette promesse Dieu l'accomplira si on lui obéit, si on lui fait confiance. C'est ça la foi. Si nous ne craignons pas les commandements de Dieu, nous craindrons devant les difficultés. Si on n'a pas peur de Dieu, on aura peur d'une mouche qui vole, d'une feuille qui tremble. C'est la crainte de Dieu qui nous permet d'avoir de l'assurance devant les Goliaths qui sont sur le chemin de la vie. La Bible dit « Ceux qui espèrent dans le Seigneur ne seront jamais confus ». Cela veut dire « Tous ceux qui attendent les promesses ne seront pas déçus ». Les promesses s'accompliront par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes dans une relation avec Dieu constante d'obéissance, de désobéissance, d'écoute, de fermeture. Constamment, il faut faire attention de garder la relation avec Dieu. Alors, devant cette situation, David est surpris, tout le monde crie. Le Goliath, là-bas, dans le camp, il est en train de se moquer de l'armée d'Israël, il se moque de Dieu, il se moque du Dieu vivant, et personne ne bouge. Je lis avec vous, chapitre 17 toujours, on restera là, hein, et verset 32. David dit à Saül, qui était le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, en apparence, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Nous arrêtons la lecture ici. Pour vous dire que la promesse que Dieu fait n'est jamais annulée. Jamais Dieu n'a enlevé une promesse de la Bible. Même s'il y a de l'incrédulité, la promesse reste toujours là, pour nous et pour nos enfants. La promesse, elle attend qu'on lui fasse confiance. Dieu nous attend. Lui, il ne change pas. Nous, on change tellement qu'on finit par dire « Dieu a changé ». Dieu ne change pas. Il attend qu'on le croie sur parole, qu'on ait recherché la promesse et qu'on lui dise « Seigneur, ce que tu as promis hier est encore valable aujourd'hui. L'Éternel chassera tes ennemis devant toi. » Mais la promesse, elle attend quelqu'un qui fasse confiance et qui ne fasse pas les choses par intérêt, mais pour l'honneur de Dieu. Parce que voyez-vous, le roi avait dit, c'est pas mal d'ailleurs, parce que devant le Goliath, tout le monde avait peur et le roi avait fait une promesse. Il avait dit, si quelqu'un va se battre avec le Goliath, premièrement, vous me direz si ça vous intéresse, je le comble de richesses. Ouh là là, là il touche au point sensible quand même, non ? Je le comble de richesses. Deuxièmement, je lui donne ma fille en mariage. Deuxième point sensible, hein ? Et troisièmement, j'affranchis sa maison. Ça veut dire en clair, il ne paiera plus d'impôts. Dites, ça vous parle ? La fille du roi comme femme, comblée de richesses, plus d'impôts à payer, plus de taxes, plus rien. Ça fait réfléchir, non ? Pas vous ? Mais le Seigneur n'a pas besoin de serviteurs qui travaillent pour des intérêts financiers. Le Seigneur n'a pas besoin de gens qui disent « Je veux bien faire ça, mais qu'est-ce que ça va me rapporter ?»« Je veux bien faire ça, mais est-ce que j'aurai de l'intérêt ?» Il a besoin de gens qui disent « J'irai me battre parce que le diable insulte l'Église, l'armée du Seigneur. Il insulte le peuple de Dieu. Il prend en otage des hommes et des femmes et il les rend malheureux. J'irai me battre par amour pour la parole de Dieu. » Le Seigneur a besoin de serviteurs qui agissent par intérêt pour Jésus-Christ. Amen. L'apôtre disait, « Je n'ai personne qui partage les intérêts de Jésus-Christ. » Attention, il faut vivre vraiment pour la gloire de Dieu et ne pas chercher son intérêt. Nous nous battons, mes amis, je le dis pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes qui passent peut-être pas souvent dans l'Église. Nous nous battons dans l'Église, dans les églises qui respectent leur vocation. Nous nous battons dans la prière. On n'a plus la fronde et la pierre, bien sûr. Nous nous battons dans l'annonce fidèle, régulière de l'annonce de l'Évangile. Nous nous battons avec le géant Satan qui dit « Je suis le plus fort ». C'est moi qui domine le monde, c'est moi qui prends sous ma tyrannie les hommes et les femmes dans la drogue, l'alcool, la débauche, dans le mensonge, dans la crédulité, les traditions. C'est moi qui tiens le monde. Nous nous disons, nous irons nous battre, nous prierons, nous jeûnerons, nous mettrons en marche la foi en Jésus-Christ. Il faut enlever de notre esprit la mentalité du monde. Qui dit aujourd'hui, est-ce que c'est rentable ? Est-ce que ça va me rapporter ? Il faut savoir agir avec amour dans la pensée de Dieu et avoir dans notre cœur, n'oublions jamais la pensée de la perdition des âmes, la pensée du jugement dernier. On peut oublier tout, même la perdition des âmes. parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est les vacances. Aujourd'hui, on a des facilités, il fait beau, on se voit, on mange ensemble. Et puis on oublie que ces gens-là, sans Dieu, ne sont pas sauvés. Il faut avoir en nous la pensée du salut des âmes pour aller se battre. Si on ne pense pas cela, on n'ira pas se battre, à moins de nous promettre la fille et l'argent et les déductions d'impôts. Samuel sort des rangs. David ne pense pas comme les autres. J'irai me battre. L'année va bientôt recommencer. Moi, j'aimerais dire au Seigneur, Seigneur, je veux aller me battre pour toi. Amen. Je veux lutter dans les combats du Seigneur. Je veux évangéliser. Je veux me tenir sur mes genoux. Je veux avoir conscience qu'un grand combat se fait dans le ciel et sur la terre. C'est le combat de Dieu. Eh bien, David va partir. On lit ensemble au verset 33. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül, le roi, dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Le roi avait dit, « Tu ne peux pas aller te battre, tu n'es qu'un enfant. » David faisait très jeune, il était jeune et on disait de lui, « C'est un enfant. » Alors, il ne peut pas aller affronter un homme de guerre. Ça, c'est l'apparence. Ne nous fions pas aux apparences. Parce que David, il a fait des expériences avec Dieu dans sa jeunesse. Il était berger chez son père. Et ça, il ne le disait pas à ses frères, il n'en faisait pas de la publicité. Mais quand il arrivait, un lion qui rentrait dans le troupeau et qui prenait un mouton dans sa gueule, qui partait avec le mouton. David courait après le lion. Il tabassait le lion, il arrachait la brebis, il prenait le lion à la gorge et il tuait le lion. J'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. Non, je n'ai jamais essayé. Il faisait donc vraiment des choses étonnantes, mais pas par sa force. Écoutez bien, vous savez ce que ça veut dire d'arracher la nourriture de la gueule d'un lion ? C'est impossible. Même les meilleurs dompteurs ne peuvent pas. Quand le lion il a sa viande dans la bouche, il faut mieux le laisser manger tranquillement et qu'il fasse la sieste. Alors pour arracher la brebis, ce n'était pas par sa force. David faisait cela avec prière, avec confiance, avec foi. C'est pourquoi il dit « L'Éternel m'a délivré de la patte de l'ours et de la griffe du lion. » L'Éternel, c'est pas moi. Personne ne peut tuer un lion qui mange un mouton. Personne. Il a donc appris, David, à faire confiance à Dieu. Dans les moments les plus durs, quand le lion devait embrasser David là, avec ses pattes, il fallait le tabasser, il a dû faire confiance à Dieu. David ne taquine pas les lions par goût du risque. Moi, je ne taquine pas le diable, moi, je ne parle pas du diable. Moi, je ne m'amuse pas avec ce personnage. Moi, je sers le Seigneur Jésus, amen. Et je veux rester fidèle en sachant bien qu'il y a un adversaire qui rugit contre l'Église, c'est vrai. Mais David, il a appris, voyez-vous, dans le secret, personne ne l'a vu, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de télévision qui filmait David. Il a appris dans le secret le combat, pas le combat du lion, le combat de la foi. Il a appris dans le secret le combat de la prière. Il a appris dans le secret qui était le Dieu fidèle. Quand on est là sous la patte de l'ours, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il a appris dans le secret la foi d'Abraham, la foi de Daniel, la foi des hommes qui disaient « Dieu est avec moi, qui serait contre moi ?» Il a pris cette foi-là. Vous savez, il y en a certains qui se découragent devant les petites choses de la vie. Ils ratent un tout petit truc et il n'y a plus de Dieu, ils ne comprennent plus, ils ne viennent plus à l'église, c'est terminé. Ils se découragent devant les petites choses de la vie. Mais Dieu nous apprend la foi dans les petites choses de la vie. Il nous apprend la foi dans les choses quotidiennes. Les petites choses, enfin, écoutez, je ne sais pas si c'est une petite chose que de se battre avec un lion, non ? Me battre avec une souris, j'aurais déjà un peu de mal. Mais un lion, ce n'est pas une petite chose. Quel est le plus fort pour vous, les enfants ? Quel est le plus fort ? Le lion ou le Goliath ? Le ? Oui, pas mal, bonne réponse. Je pense que c'est le lion le plus fort. Hein. Parce que les lions, ben, vous les connaissez, vous êtes allés déjà au cirque, vous avez déjà vu dans les zoos peut-être. Mais un lion, c'est plus redoutable qu'un être humain, c'est plus fort. Sa mâchoire, vous la connaissez. En fait, contre le lion, il apprenait la foi, mais c'était vraiment un examen pas à blanc, là. C'était un examen réel avec quelqu'un de plus redoutable que Goliath. Il a appris la foi. Il a confessé sa foi. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré me délivrera. Il confesse sa foi. Je pense que c'est important de dire ce que nous croyons devant Dieu. Je crois que tu es le Seigneur qui me sauve. Le Seigneur qui protège ma fille et qui protège mon fils et ma famille et mes enfants. Tu es le Seigneur qui tient ma santé. Tu es le Seigneur qui me porte dans le chemin tourmenté. Il faut confesser sa foi. Parce qu'en la confessant, on lui donne de la fermeté. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Confessons notre foi chez nous, dans notre chambre, partout. Je lis avec vous un autre verset, un quatrième verset, versets 38 et 39. Saül, le roi, fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain, c'est-à-dire de bronze, et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit, ça veut dire qu'il a mis à sa ceinture l'épée de Saül, par-dessus ses vêtements, ses habits, et voulut marcher. Ah, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. » Amen, il a eu raison. Moi, j'ai essayé de m'imaginer hier soir David qui se fait habiller par le roi. « Allez, mets ma chemise. » Mets ma tunique, mets ma ceinture. Pauvre David, il devait se dire, on me prend pour qui ? On me prend pour un pantin. Mais ce qui était terrible, c'est le casque, ouille, et l'armure, et l'épée, trop lourde, trop encombrant. Et là, David a réalisé qu'il était paralysé. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus avoir cette souplesse. Il n'était pas lui-même. On a mis sur lui une image, on a mis quelque chose sur lui, et il n'était plus lui-même. David, c'est celui qui court sur les rochers avec sa fronde, qui prend le lion avec ses mains nues. David, ce n'est pas quelqu'un qui se cache dans une armure. Vous savez, mes amis, il y a certains dangers dans la vie qu'il faut combattre, non pas avec nos forces, mais avec les armes de Dieu. Il y a certains périls, il y a certaines menaces qui nous demandent non pas des armes humaines, mais des armes spirituelles, avec la force du Seigneur qui agit en nous. Moi, contre le ravage du péché, contre la puissance de l'occultisme aujourd'hui, devant les ravages que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne peut pas créer des institutions, créer des associations, créer des choses. On se rend compte qu'il nous faut la prière, il nous faut des armes spirituelles. Et les armes spirituelles dont nous avons besoin, c'est une vie sainte, c'est une confiance dans le Saint-Esprit, c'est une confiance dans la parole de Dieu, c'est une confiance dans la vie de prière. Ce n'est pas que David, il est contre le casque, vous savez, il a pris le casque, hein, il a été en guerre. Il a mis aussi l'épée, il a su se battre avec des armes modernes. Aujourd'hui, si David était là sur l'estrade, il ne serait pas contre Internet, quand c'est bien fait, quand c'est bien organisé. Il ne serait pas contre la télévision quand c'est pour l'Évangile. Il ne serait pas contre l'imprimé, la Bible imprimée quand même. Hein. Il ne serait pas contre tout ça. Mais Mais Dieu travaille pas avec des moyens humains, mais avec des êtres humains. Dieu travaille avec des hommes qui ont le cœur tout entier à Dieu. Ce n'est pas nos machines, ce n'est pas nos casques, ce n'est pas notre cuirasse, ce n'est pas tout ce qu'on met autour de nous qui va faire que l'œuvre de Dieu se fera. C'est notre cœur tout entier au Seigneur. Amen. Nous faisons attention que la technologie ne nous fasse pas oublier l'importance de la sainteté et de la simplicité devant Dieu. Amen. Les apôtres, Jean-Baptiste, ont fait beaucoup plus que toute la technologie du monde entier, parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu, et c'est ça la vérité, l'annonce de la parole de Dieu que vous faites, que je dois faire aussi. Alors David, pour aller au combat, il enlève son armure, enlève son casque, son épée, et il prend avec lui seulement sa fronde. J'ai joué à la fronde quand j'étais enfant. C'est pas facile. On vit souvent à côté. Il a pris sa fronde et 5 petits cailloux du torrent et son bâton de berger. Et il est parti au combat avec la confiance en Dieu. Il avait la confiance en Dieu. Il est parti au combat en disant à Goliath, « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées et de l'armée du Dieu vivant que tu as insulté. » Ça veut dire « Je marche contre toi envoyé par le Seigneur. » Il n'y a pas d'armes. Qu'est-ce qu'une fronde devant un géant casqué, blindé? Qu'est-ce qu'une fronde devant un char d'assaut? Il n'avait pas d'armes. Mais il a dit, je marche contre toi parce que Dieu m'envoie contre toi. Ça fait peur. Ça devrait faire peur au Goliath. David est faible. Il n'a pas de véritable arme. Il est tout seul. Il est sans protection. Vous savez comment ils ont fait pour attacher Gulliver, le grand géant? Vous connaissez les aventures de Gulliver? Comment ils l'ont eu? Tous les petits hommes de l'île, les Lilliputiens, là, ils se sont mis tous d'accord ensemble. Et puis ils ont ficelé le géant. Pas un seul ne peut rien faire. Tous ensemble. Mais là, David, il est tout seul. Tout seul contre un géant. Sa véritable épée, c'est le Seigneur. Son véritable casque, c'est l'assurance du salut qu'il a. Son véritable bouclier, c'est sa foi. Et puis il avait avec lui 5 pierres dans sa besace. 5 pierres que le torrent a polies, façonnées, fabriquées pendant des centaines d'années. Des petits cailloux tout ronds qu'on a sur les plages, sur les plages de Normandie, en Haute-Normandie. Des petits cailloux ronds. Et j'ai pensé à ces petits cailloux de David. Et j'ai pensé aux pierres de notre foi. Que la parole de Dieu travaille en nous. Plus je lis la Bible, plus je sais en qui je crois. Plus je lis la Bible, plus ma foi se travaille, se façonne, se polie, se fait, se fabrique. La foi, c'est la Bible qui l'a fait en nous, qui la tisse en nous. Mais David, qu'il fasse attention à lui, David. Il ne faut jamais faire le fanfaron. David a dû se protéger contre des pierres que lui a adressées le géant. Le géant lui a envoyé des pierres. Ce n'est pas écrit dans la Bible, vous me direz. La pierre du mépris. Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? La pierre de la violence verbale. Vous connaissez la violence verbale? Je vais donner ta chair en nourriture aux oiseaux du ciel ce soir, a dit le Goliath. C'est pas rassurant quand on est tout petit qu'on entend ça. Puis la pierre de la sorcellerie. Le Goliath, il a maudit David au nom de ses dieux. Ça veut dire au nom du diable. Attention à ces pierres. Le mépris qui peut nous décourager. La violence qui peut nous arrêter. La sorcellerie qui peut peut-être aussi nous faire peur. Mais David, il a envoyé une première pierre, invisible. La pierre de sa foi. Et il a dit au Goliath, aujourd'hui je t'abattrai, je te couperai la tête, il fallait le faire, je te couperai la tête, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. parce que la victoire appartient à l'Éternel, le combat appartient à l'Éternel. Piouf, première pierre, invisible, la foi. Il est un peu fanfaron, ce David, vous ne trouvez pas ? Devant un géant, j'aurais dit, monsieur, excusez-moi de vous déranger. J'aime pas déranger les gens, moi. Excusez-moi, ça va bien d'abord ? Je te coupe la tête ce soir et c'est fini. Voilà comment parlait David. Mais David, rappelez-vous, quand il a été roi, Samuel, il a versé sur lui une fiole d'huile qui représentait le Saint-Esprit. Et puis l'huile coulait sur lui, sur sa barbe. Et puis le Saint-Esprit, dit la Bible, a saisi David. Et tous les jours de sa vie, David a été rempli du Saint-Esprit. Et David, quand il parle, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. Des paroles de foi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et parfois, nous aussi, on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour avoir des paroles de foi face aux difficultés. Que Dieu nous aide. Amen. Un dernier verset. Je lis avec vous dans 49-51, parce que comment ça va se terminer ? Oh, je pense que c'est connu, non ? On a déjà lu. 49, il mit la main dans sa gibecière, hein, sa besace de berger, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta d'auprès du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Aïe, ça fait mal. Hein. Alors la difficulté, je me suis servi de la fronde dans ma jeunesse, la difficulté quand même, c'est de courir, il court sur le champ de bataille, et de viser un tout petit endroit qui était accessible, parce que tout était cuirasse, tout était casque, tout était bouclier, tout était armure, tout était épée, tout était ferraille. C'est un homme ferraillé qui est devant lui. Il avait un petit endroit fragile, là, 10 par 10, le front. Il fallait courir, il fallait viser, il fallait pas rater la cible. Impossible. Pour moi, c'est impossible. Dieu peut le faire. Amen. Nous, on fait ce qui est possible. Dieu fait l'impossible. On fait notre tâche, on accomplit des choses, puis on dit, Seigneur, pour le reste, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Mais toi, tu peux toucher le cœur de nos familles, tu peux toucher notre santé, tu peux toucher nos difficultés. Amen. David lance et Dieu a porté la pierre. Non, vous ne pensez pas que c'est ça ? Dieu a porté la pierre dans le front et l'a enfoncé dans le front du Philistin qui est tombé et qui est mort. Mais regardez, mes amis, comme tout semble insignifiant. Une pierre, une fronde, un jeune homme, des choses faibles. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu prend les choses qu'on méprise pour confondre celles qui sont. Mais dans cette histoire, la foi brille. La foi est brillante. Elle montre que Dieu conduit un combat impossible. Mais le combat pour le salut des âmes, mes amis, c'est un combat impossible. Devant ce combat, il y a même des chrétiens qui dorment, qui n'y pensent plus, qui ne savent plus, qui ont oublié. Mais devant ce combat, moi, je crois que Dieu fait l'impossible. Amen. Par la foi, je conclus, ils furent vaillants à la guerre. Ça veut dire courageux, hardis dans les batailles de la vie. Je crois que la foi nous permet un grand courage. Il faut qu'on en ait à revendre du courage. Parce que la foi nous permet de voir celui qui est invisible, permet d'entendre la promesse que Dieu fait. La foi donne du tonus. La foi nous fait courir avec courage, nous donne du cœur. La foi ne fait qu'on ne s'arrête pas sur un petit échec. Et on ne remet pas tout en question. Le ciel, le monde, Dieu, non. La foi dit, je continuerai, j'irai me battre, parce que l'Éternel m'y envoie. Amen. Et bien que le Seigneur nous donne une foi ferme, parce que vous vous en doutez bien, des Goliaths, il y en a pas mal dans nos rues, il y en a pas mal dans nos têtes, il y en a pas mal dans la maison parfois, que Dieu les anéantisse. Amen. L'incrédulité, le doute, les chagrins, les tristesses, oui, tout cela, Seigneur, apaise, guéris, fortifie-nous. Amen. Je prie le Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous montres dans ce David un exemple de foi, ferme assurance, des choses que l'on attend, que l'on espère. Et nous voulons retrouver, nous aussi, dans ce monde qui dort, dans le plaisir et le rire, nous voulons retrouver le courage des héros de la foi, des témoins de l'Évangile, des héros de l'Évangile. Te prions de nous remplir de force, de nous remplir du Saint-Esprit qui nous donne du courage, qui nous donne de la sagesse, qui nous donne de la hardiesse, qui nous donne la foi. Merci pour l'Esprit Saint qui est en nous. Au nom de Jésus, amen.